couvercle, la good food.
Mangeuse, histoire de sel qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Carlos, c'est le livre certainement de la rentrée, écrit par Lorraine Malka, notre invitée du jour, et préfacé par notre amie, notre adorable amie Ryoko Sekiguchi, on le rappelle, autrice et poétesse. Alors, Lorraine Malka, vous êtes donc autrice, particulièrement au fait des questions liées aux femmes. Un ouvrage entre le récit, l'enquête, l'essai, le recueil aussi testimonial, pour finalement comprendre le lien qui nous lie, nous les femmes, à la nourriture, mais pour tenter aussi de l'expliquer, parce qu'il y a des origines très, très, très lointaines à ce statut que nous avons peut-être pris sans le vouloir vraiment. Dans cet ouvrage, vous le dites, Lorraine, nous les femmes traînons une foule d'interdits, une forme de culpabilité à la nourriture, les chiffres des maladies telles anorexie, boulimie, le prouvant, c'est un mal souvent féminin, nous rendant coupables ou révoltes parfois face à la nourriture. Et vous l'expliquez, ce rapport de force, de dépendance, ce rapport complexe à la nourriture vient de loin. Ça mérite d'emblée une petite explication.
Oui, en fait, c'est vrai que l'acte de manger, pour moi, me passionne parce que j'y vois une immense cave à tabou. Finalement, ce qu'on appelle le tabou, c'est un objet à la fois sacré et donc bien visible, vraiment très exposé, étalé devant tout le monde, dont on parle sans arrêt. C'est tout à fait le cas de la nourriture qu'on sacralise, qu'on ritualise, qu'on patrimonialise. Et en même temps, avec des aspects qui restent entièrement indicibles. Et par exemple, c'est l'angle que j'ai choisi moi, le rapport de culpabilité et de honte que les femmes entretiennent très souvent avec la nourriture, le péché de gourmandise et avec leurs propres appétits. Et j'ai bien senti, j'avais l'intuition que c'était une histoire qui remontait très loin et effectivement, c'est ce que j'ai pu confirmer.
Oui, Roland Barthes, célèbre écrivain philosophe, était, vous l'écrivez, le premier à repérer l'arnaque. On était en 75, 75 chez nous. Mythologiquement, il l'écrivait, la nourriture est l'affaire d'homme, la femme n'y prend part qu'à titre de cuisinière ou de servante. Elle est celle qui prépare ou sert, mais ne mange pas. On avait déjà bien cerné le problème. Alors, remontons aux origines, Lorraine Malka, la gourmandise considérée comme un péché. Ève, qu'as-tu fait en croquant la polpe? Ça mérite une explication elle aussi parce que du coup, ça a déjà mis, on a tamponné notre statut de femme comme celles qui ont déversé le malheur sur la planète.
Absolument, en croquant cette pomme et en la tendant à Adam, elle mène l'humanité au désastre. Oh. Et je me suis demandé comment ce péché était considéré dans la littérature théologique. Je suis allée fouiller dans les débats qui ont surtout eu lieu au Moyen-Âge pour essayer de savoir qui était le plus coupable entre Ève et Adam d'avoir péché par gourmandise par orgueil, parce que le fait de croquer la pomme, c'est aussi un péché d'orgueil, d'avoir voulu savoir ce qui se cachait derrière cet arbre de connaissance. Et effectivement, les débats, alors pendant toute une partie des débats, on voit que tout le monde est d'accord pour dire que c'est Ève la coupable, c'est elle qui a tendu au pauvre Adam cette pomme et qui nous a mené vers le mal. Mais à partir de Thomas d'Aquin commence à se poser la question et à dire, mais finalement, elle est quand même sous la gouvernance d'Adam. Elle n'est qu'une petite partie d'Adam. Donc est-ce qu'elle est vraiment plus responsable et plus blâmable que lui?
Oui, elle n'a pas tout à fait le cerveau de l'homme d'Adam, quoi. Donc on lui pardonne presque, c'est ça.
Exactement. Lui, il considère, en fait, dans la théologie et même à partir d'Aristote, on considère que la femme a moins accès à la raison, à une raison plus faible. Et donc, évidemment, étant sous la gouvernance d'Adam et ayant un accès à l'intelligence et à la raison beaucoup plus faible, cette pauvre Ève est vouée à ses passions et plus vulnérable face au péché en général et en particulier à celui de la gourmandise.
Mais Lorraine, en même temps, moi j'ai toujours du mal à appréhender ce péché de gourmandise dans les religions, disons, chrétiennes et plutôt catholiques. C'est que c'est un péché à géométrie variable quand même, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On voit bien que c'est un péché, mais dans l'histoire des 1000 dernières années, les catholiques ont toujours bouffé beaucoup plus que les protestants, par exemple, des 500 dernières années.
Alors, justement, moi, mon hypothèse que je nourris, si j'ose dire, dans Mangeuse, c'est de montrer que les hommes, et très souvent les hommes plus riches, les hommes plus privilégiés,
les puissants,
voilà, les puissants, exactement, cherchent à s'exonérer du péché de gourmandise par des pratiques intellectuelles, pratiques spirituelles, et écarte, exclut même les femmes de cette possibilité-là. Et d'où le maintien des femmes dans un rapport de gloutonnerie, un rapport sauvage et primaire à la gourmandise.
Ouais. Même similarité avec le mythe de Pandore, hein, la première femme humaine de la mythologie grecque. Cette femme, elle va vider l'énergie des hommes et leur garde manger, accessoirement aussi. C'est vraiment ça, nous.
Exactement. Ouais. Pandore, c'est vraiment Ève dans la mythologie grecque. C'est, c'est la première femme humaine de la mythologie grecque. Et elle est décrite par Hésiode comme une gastère, un ventre en grec. Un estomac, dit Hésiode, un estomac de chienne.
Voué à ses pulsions, en quelque sorte.
Corps très gracieux. Donc elle a, en fait, mais c'est caché, hein, c'est toujours une ruse. La femme est toujours perçue comme étant une femme rusée. Et donc, sous des dehors merveilleusement gracieux, elle cache cet estomac de chienne qui va épuiser à la fois les provisions alimentaires de l'homme, mais aussi évidemment son énergie sexuelle.
Et quelque part, on comprend derrière cette histoire que à ce moment-là, déjà, la femme qui mange est dangereuse.
On a plusieurs exemples de ça. Mmh. Donc on a vraiment, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a Pandore. Du côté biblique, il y a Ève. Oui. Et puis, en fait, tout au long de l'histoire, comme ce concept, cette figure de la femme qui mange et qui est dangereuse n'a jamais été vraiment pensée ni interrogée, cette figure reste. C'est une figure vraiment allégorique qui reste permanente tout au long des siècles. Et je me suis un peu amusée à la traquer à travers les différentes représentations culturelles, à travers les siècles, vraiment.
Voilà déjà pour les origines. Dans cet ouvrage Mangeuse, publié aux éditions Les Pérégrines, vous parlez évidemment aussi d'une époque plus contemporaine, la littérature, vous allez plonger aussi dans l'histoire du cinéma. On y découvre souvent, d'abord ce sont dans la littérature, au départ, des hommes qui écrivent pour des hommes, hein, ça vous le soulignez. On y décrit aussi des hommes qui mangent tandis que les femmes ne font que préparer ou servir la nourriture. Et c'est un schéma qui remonte à très loin et qui n'a cessé au final de se renforcer au fil de l'histoire.
Oui, vous avez cité la phrase de Roland Barthes qui m'a complètement sidérée.
Ben oui.
C'était une intuition de départ pour moi d'affirmer qu'effectivement dans les représentations culturelles très anciennes et constantes à travers les siècles, comme je le disais, la femme ne mange pas, elle prépare à manger, elle sert à manger et elle est appétissante. Elle est souvent comparée à des aliments comestibles, à des fruits, voilà, dans la littérature, dans le cinéma, mais elle ne mange pas. Et effectivement, quand je suis tombée sur cette phrase merveilleuse de Roland Barthes que vous avez citée, ça a confirmé cette intuition. Et on a énormément d'exemples au cinéma, en littérature, d'hommes qui dévorent, qui se réunissent à la grande bouffe.
Mais dans la grande bouffe,
flingueur.
Oui, si je me permets de vous interrompre, oui, Lorraine, dans la grande bouffe, il y a quand même le personnage, j'ai oublié son nom dans le film, mais joué par Andrea Ferréol, qui quand même... Est-ce que vous considéreriez, et si vous n'êtes pas fan du film, alors on peut passer à autre chose.
J'aime beaucoup ce film.
Je me permettais juste, je ne voulais pas vous coincer là-dessus. Mais est-ce que vous pensez que dans ce film-là, justement, on met une gourmande à l'égal des hommes?
Ah non, dans ce film que j'aime beaucoup par ailleurs, moi je ne critique pas toutes les représentations culturelles dont je parle ne sont pas l'objet de critiques dans mon livre,
ce
n'est pas du tout l'objet. C'est une analyse que j'essaye de faire à travers les représentations culturelles. Mais j'adore ce film La Grande Bouffe,
qui
a accompagné mon enfance. Et les femmes dans La Grande Bouffe sont perçues comme exactement comme ce qui se passe en fait dans l'histoire vraie. Les femmes sont perçues comme dérangeant une activité très sérieuse entre hommes qui consiste à se livrer à une orgie. Et en fait, eux considèrent que c'est vraiment... Ils vont faire ça pendant des jours et ce sera l'objet principal de leur séjour. Je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, mais ils ont un séminaire, je crois, gastronomique. Enfin, ils prennent ça très au sérieux. Et les femmes dérangent tout. Par exemple, il y en a une qui commence à manger le dessert au début, au lieu de manger l'entrée. Et elle désordonne complètement ce qui est censé être très sérieux, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, elle est ultra sexualisée. Mais d'ailleurs, une question que j'aimerais vous poser, Lorraine, est-ce qu'on pourrait imaginer le même film aujourd'hui avec une inversion des rôles ? les femmes dans la domination du banquet, finalement, avec quelques hommes qui viennent un peu foutre le bordel. Est-ce que ça pourrait être envisageable?
Alors là, ce serait un film d'une puissance féministe magnifique. Vous venez d'inventer un...
Hé, Carlo,
ça serait pas mal.
Féministe.
Parce qu'il faut quand même signaler, et honneur à Carlo, depuis 15 ans qu'on fait cette émission, il a été l'un des premiers dans cette grande maison RTBF à tenir les discours féministes, à appuyer la cause féminine dans le monde de l'alimentation. Donc effectivement, c'est un sujet qui vous parle, Carlo.
C'est sûrement un sujet qui me parle, mais voilà, on en a parlé un petit peu hors antenne. Je voudrais sûrement pas me décerner un badge dans ce domaine. En tout cas, ce que je trouve intéressant, en revanche, c'est souvent quand nous faisons ce genre d'émission, Sophie et moi, quand nous avons des invités qui défendent une, non pas une posture, mais une cause, c'est là qu'on reçoit des critiques. D'ailleurs, je serais pas étonné qu'on en reçoive aujourd'hui aussi. C'est que, je vais quand même vous citer une petite anecdote parce qu'elle m'avait touché à l'époque. Nous avions invité Sandrine Govarts, qui est une militante féministe spécialiste vin, qui a eu quelques ennuis avec quelques chroniqueurs. On passera une autre fois. Et un auditeur m'a envoyé ce message. Eh bien, pour une fois, j'ai arrêté d'écouter. Alors, c'était intéressant. De me dire, et je l'aime beaucoup, cet auditeur, c'était un garçon vraiment très sympathique, à qui j'envoie toute mon amitié. Oui. Mais simplement, c'était intéressant de voir, finalement, en quoi ça mettait peut-être en danger notre existence en tant qu'homme, de savoir que des femmes prennent si intensément, pas violemment, la parole. Voilà, c'était mais juste une petite digression. C'est que ça pose toujours question. Et quand vous avez soulevé, Sophie, cette histoire de faire un film intensément féministe où les femmes domineraient, je suis certain que le monde classique, si le film est bon, même les chroniques, on dira que la réalisatrice est incompétente.
Non, ça montre aussi que les choses doivent changer et ça montre aussi des millénaires de pratiques très masculines. Avec Sandrine, on parlait effectivement d'un monde du vin créé par les hommes, menés par les hommes.
Tout à fait.
Et c'est ce que fait finalement aujourd'hui Lorraine dans cet ouvrage. Les femmes en cuisine, en télévision, ça a longtemps aussi été le
faire valoir.
Les femmes, je me souviens encore d'une émission avec Raymond Oliver et Catherine Langeais, c'était vraiment la potiche, quoi. Il fallait pas qu'elle nous pose de questions.
Même chez nous, le brave Olivier, Louis Willems et Gabriel Davoy, qui est toujours animatrice sur Classique 21, elle avait pas beaucoup de place.
Et vous épinglez même l'émission très très bon sur Paris Première avec notre ami qu'on adore, François-Régis Gaudry, un homme qui mène la danse, mais qui s'entoure désormais de chroniqueuses.
C'est le contraire.
Oui. Alors, je n'épingle pas, j'ai interrogé les chroniqueuses, parce qu'effectivement, François-Régis Gaudry a la particularité de s'entourer énormément de femmes chroniqueuses qui mangent, qui boivent. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir est-ce qu'elles le font plus ou moins que les hommes, c'est comment elles le font, puisqu'elles ont été écartées de cette expertise, de cette exonération du péché de gourmandise. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elles écrivent ce qu'on appelle l'éloquence gourmande, à leur façon.
Dans cet ouvrage, vous parlez aussi, Lorraine, de l'invention de la gastronomie. Vous l'écrivez, c'est une manière pour les hommes de continuer à manger tout en s'exonérant du péché de gourmandise. Ouais. L'invention de cette éloquence gourmande, le mot est fort, est une manière érudite et savante de manger, ils en excluent officiellement les femmes qui risquent à nouveau de les déconcentrer. Ça explique peut-être aussi le manque de femmes encore aujourd'hui en 2024 dans le milieu de la gastronomie, de la cuisine.
Exactement, c'est une histoire qui remonte très loin parce que déjà dans l'Antiquité, on parle de la gastronomie qui est un mot qui a été fondé au XVIIIe siècle et puis qui est une pratique, vraiment le fait de disserter sur ce qu'on mange. Mmh. Ça a été fondé par Grimaud de la Reynière et puis son disciple Brillat Savarin à ce moment-là, mais en fait ça remonte à avant, puisque dans l'Antiquité déjà on parlait de gastrologie ou de gastrosophie, qui était une façon comme ça d'élever les plaisirs du ventre vers un savoir érudit, vers une élévation intellectuelle et des commentaires en fait, des commentaires gastrologiques. Et déjà à ce moment-là, à partir du moment où on a commencé à se piquer de cette curiosité gourmande et de cette intellectualisation de la gourmandise, on en a écarté toute une partie de la population et en particulier les femmes. Et de façon très très objective et très active la part de Grimaud de la Reynière qui voulait vraiment pas être déconcentré. Ouais.
Lorraine, est-ce que ce monde-là, et j'ai envie de dire tant mieux, de la gastronomie non pas intellectuelle, mais plutôt du discours gastronomique très théorique, très ampoulé, très chiant en fait, que ce soit sur les restaurants ou pire encore sur les vins, est-ce que ce monde-là, il n'est pas juste en train de s'écrouler? hommes et femmes, je n'ai pas envie de dire confondus, parce que je n'ai pas d'exemple féminin de ce genre de théorie, quoique, est-ce que ce n'est pas en train de se déliter au profit d'une interprétation plus festive et d'un raconter le manger beaucoup plus festif et beaucoup plus, j'allais dire épicurien, parce qu'il n'y a pas d'autres mots qui me viennent, mais vous voyez ce que je veux dire.
Mais je vous avoue, Carlo, qu'en écoutant votre chronique sur le Vermont, c'est à ça que j'ai pensé. J'ai trouvé que votre façon de parler, effectivement, des émotions que ça vous procurait et d'un plaisir très subjectif, très personnel, vous avez parlé de ça et c'était une façon très futuriste, en fait, féministe.
Je vais l'enregistrer.
Attention, le coup va.
Non, je vais l'enregistrer pour mes enfants, oui.
On est dans une émission futuriste entre votre proposition de fiction, Sophie.
C'est génial, et votre commentaire. C'est quand même chouette, les interviews chez les Belges.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que vous l'expliquez. Donc, effectivement, les femmes au restaurant, mais n'y pensez même pas. Une compagnie absolument désastreuse à cause, le disiez-vous, des devoirs absorbants que la politesse exige et qui détournerait les hommes du propos de la gastronomie.
Une citation,
exactement. Dans cet ouvrage, vous l'expliquez, mangeuse, je le rappelle, tout au long de l'histoire, les femmes sont éloignées de tout ce qui peut anoblir. L'acte même de manger est cantonné à la gloutonnerie et au lien au sucre. Vous évoquez la sociologue Anne Dupuis qui a étudié la façon dont on aborde la gourmandise sucrée en famille. Et là, bardaf, c'est lambardé. Pour les filles, c'est du sucre. Pour les gamins, c'est du goût.
Oui, alors ça, c'est vraiment... Effectivement, Anne Dupuis est une sociologue qui a étudié, c'est assez rare comme sujet d'étude, les plaisirs alimentaires, donc dans ce qu'on appelle l'entourage, ce qu'on appelle en sociologie l'entourage nourricier, donc entre autres les familles. Et elle s'est rendue compte que les filles étaient à la fois poussées au plaisir sucré et en même temps réprimées dans leur élan vis-à-vis de ces plaisirs-là. Donc il y a une idée d'être encouragée parce qu'on est souvent traité de gourmande quand on est enfant, mais particulièrement quand on est une petite fille, et en même temps on est réprimée. Alors que les petits garçons qui ont ce même attrait vis-à-vis du sucre, puisque c'est un attrait
universel,
d'enfant,
bien sûr.
Les garçons sont plus poussés à diversifier leur goût et à éduquer leur palais en allant vers des saveurs plus complexes. Mmh. Et c'est moins le cas des petites filles à qui on tape le doigt quand ils se rapprochent du pot de confiture.
Alors du coup, si je vous comprends bien, on a un attrait, une appétence plus importante en tant que femme vers le sucre, puisque c'est une construction familiale qui remonte à bien longtemps, on l'aura compris. Et du coup, ça nous entraîne aussi dans une vague où on peut effectivement accumuler le gras. Le gras, vous en parlez beaucoup dans ce livre. Il y a le gras, oui, mais le gras, pas partout. Et de nouveau, là, c'est une injonction qui n'est pas tenable, clairement.
Exactement. Alors, en fait, dans mon livre, j'étudie à la fois les représentations par rapport, comme vous le disiez, aux mœurs, aux habitudes. Et donc, effectivement, il y a ce lien entre ce lien vraiment culturel dans les représentations culturelles entre les femmes et surtout les jeunes filles et le sucre. Mm-hmm. C'est vraiment, comme dit une sociologue dans mon livre, une partition que les jeunes filles apprennent à jouer très tôt. Dès l'âge de 3 ans, on observe cette partition que les filles apprennent à jouer vis-à-vis des plaisirs sucrés qui deviennent assez rapidement, en fait, au moment de la puberté, des plaisirs sensuels, des représentations de la femme sexualisée. Et on a vraiment ce motif littéraire de la femme sexualisée qui mange du sucre, qui traverse l'histoire, la littérature du Marquis de Sade à Nabokov, en passant et en allant jusqu'aux publicités. Hein, c'est très, très présent dans les publicités. Oui. Donc vraiment, dans cette représentation-là est très présente. Et par ailleurs, en fait, j'aboutis à cela à la fin de mon livre parce que j'ai considéré que ce n'était pas le premier levier privation des femmes, la minceur, le rapport à la minceur, qui en fait...
Est-ce que ce dictat de la minceur, justement, a toujours existé? On a l'impression qu'il est assez récent, mais pas du tout.
Exactement. Ouais. En fait, le dictat de la minceur n'est pas récent, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Mm-hmm. Il y a toujours eu un rapport à une norme de minceur qui, en fait, est une façon de représenter l'équilibre, la sobriété. Donc socialement, il y a une forme de bienséance sociale très ancienne qui date déjà des traités antiques de ce qu'on appelait la physiognomonie qui décrivait en fait les liens entre l'apparence physique et les valeurs morales, les vertus morales. Et en fait, ça parcourt l'histoire, vraiment cette norme de minceur. En revanche, il y a une norme spécifiquement adressée aux femmes qui est celle d'incarner à la fois cette bienséance sociale à travers la minceur, mais aussi leur disponibilité mobilité sexuelle et procréative à travers la graisse. Mais la graisse, pas à n'importe quel endroit à n'importe quel endroit du corps, dans les zones les plus érotisées et les plus essentialisées du corps.
Et techniquement, c'est pas possible. Quand on grossit de partout, et quand on maigrit de partout. Non, mais Carlo,
voilà,
je veux juste vous dire que là, on est toujours dans cette injonction.
On a la radio, mais on fait quoi dit. Les mimiques ne comptent pas.
Non, mais de nouveau, ça tient pas la route, parce qu'en même temps, on peut en avoir terriblement envie de ces formes aux endroits stratégiques, mais c'est pas tenable, parce que c'est le corps qui prend entièrement. Carlo, petite réaction.
Oui, non, je vais briser tout ce qui m'a valu des compliments depuis le début de cette émission, mais c'est que si on parle de sensualité et de manger, c'est vrai que le côté un peu sucre, etc., comme ça, à première vue, ouais, et quand on n'est pas déconstruit, est un tout petit peu plus sensuel que quinoa et cacha grillé.
Ouais. Hein, donc, ouais, mais justement...
Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi... On enlève des normes, et puis tout d'un coup, sous couvert parfois, on en rajoute d'autres. Je ne sais pas ce que vous pensez, Lorraine, c'est que finalement, cette injonction à être en bonne santé, qui d'ailleurs maintenant touche quand même un petit peu les hommes aussi, cette injonction se transforme en d'autres injonctions de vertu. Je ne sais pas si vous avez vu apparaître ça dans vos lectures ou dans les références que vous avez employées pour votre bouquin ou dans votre savoir personnel.
Absolument. De toute façon, il y a ce qu'on appelle le backlash, systématiquement...
Retour de manivelle en français. Hein,
oui. Voilà, c'est retour de manivelle, retour de bâton, à chaque fois que se développe dans une communauté de personnes un élan pour s'affranchir, pour s'émanciper, ça se retourne en injonction. C'est très fréquent, surtout depuis le patriarcat et le capitalisme.
Après, on peut avoir du plaisir... J'en ai régulièrement à manger du quinoa soufflé dans son yaourt.
Écoutez, on est ravis pour vous, Carlo. Mais c'est vrai que ce qu'on comprend en lisant au fil de ces pages, c'est que finalement, pour se conformer à ces codes historiques imposés par les hommes, les femmes ont imposé à leur corps des régimes alimentaires compliqués, difficilement tenables, et que aussi ça nous a poussé. En fait, parce que l'idée de ce livre aussi, c'est de pas tenter d'expliquer pourquoi ces mots tels que la boulimie ou l'anorexie sont plus féminins que masculins, mais ça explique déjà beaucoup de choses. C'est qu'on est presque programmé à avoir d'emblée une relation conflictuelle entre la nourriture et les mangeuses que nous sommes ou que nous serions en train de devenir.
Voilà. Oui. Pour moi, c'est vraiment une très longue histoire qui fabrique cette culpabilité. Mmh. C'est une longue fabrication qui remonte à l'Antiquité, et j'ai trouvé que c'était important de savoir, en fait, de connaître l'histoire de ce rapport coupable des femmes vis-à-vis de la gourmandise qui les mène très souvent, et en fait j'ai pu confirmer ça à travers l'enquête que j'ai menée en interrogeant beaucoup de femmes, de jeunes femmes, de différents âges et de différents milieux sociaux. De très nombreuses femmes sont sujettes effectivement à ces troubles dont vous parlez, les troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, hyperphagie, on en compte plusieurs, et qu'on peut appeler aussi l'anxiété alimentaire.
Oui, c'est ça, plus globalement.
Préoccupation très forte vis-à-vis de la nourriture.
Mais est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser de cette codification génétique et historique à l'avenir? Je pense par exemple au mouvement féministe aujourd'hui en 2024, dont il n'a jamais été aussi puissant, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un horizon peut-être pour les femmes qui mangent, qui aiment manger, qui n'aiment pas manger? Est-ce que ça va peut-être nous faire évoluer dans de nouveaux chemins de l'alimentation plus simple finalement?
Moi, comme je le disais, je considère en fait que le rapport au savoir, le rapport à... On a toutes et tous besoin de cette élévation intellectuelle et de ne pas rester dans une représentation, vraiment une représentation obligatoire de gloutonnerie, de rapport primaire au plaisir, aux passions. On a besoin d'élever ça et de travailler ça intellectuellement, spirituellement, d'en faire quelque chose. Et en fait, mon livre est une façon pour moi de faire circuler ce besoin de savoir, de connaître notre histoire vis-à-vis de ce péché de gourmandise notamment, et par le savoir dont on a été très souvent exclus, nous les femmes, ce champ du savoir, je pense qu'on peut effectivement acquérir un nouveau rapport à la nourriture et à ses plaisirs alimentaires, en effet.
Un récit absolument passionnant à lire, que l'on soit gourmette ou gourmet, ça s'appelle « Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès », écrit par vous, Lorraine Malka, et préfacé par Yoko Sekiguchi, et c'est publié aux éditions Les Pérégrines. Dites, Lorraine, j'ai faim. J'ai plus envie de manger, c'est grave, docteur.
Bah, en même temps, c'est bientôt l'heure. Voilà. Il est samedi, il est 11h45, Sophie.
Bon, mais Carlo, on va retrouver Elisabeth de Bourse, là, qui s'enfile un petit café. Elle vient, Elisabeth de Bourse, du Guide Le Food.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.